Bonjour à tous et à toutes, chers auditeurs, chères auditrices. Ici Papy en live, donc depuis Antithèse Radio. Aujourd'hui, nous allons nous retrouvons pour le Bar des Times numéro 15. Aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? Nous allons tout d'abord faire un tour de table pour présenter les invités. Puis nous parlerons ensuite des actualités, tout simplement. Et puis on abordera après le thème mystère. Pour commencer, ici Papy, mon habitude. À ma gauche, j'ai Monsieur Lucas.
Bonjour.
En face de moi, j'ai Monsieur Gilles Rougeau, si c'est bien cela.
Bonjour, oui, c'est ça.
Et j'ai aussi en face de moi Monsieur Bardet, notre proviseur.
Eh oui, qui vous surveille.
Et on a aussi Florian, notre ingé.
Bonjour.
Donc. Ceux qui ont l'habitude, nous avons un invité mystère, si on peut dire ça, qui n'a pas l'habitude d'être ici. Donc, Gilles, si vous voulez peut-être vous présenter ou...
Dévoiler le mystère.
Le mystère, c'est ça.
On va dévoiler le mystère. Alors, bonjour à toutes et à tous. Moi, je m'appelle Gilles Rougeau. J'exerce les fonctions de conseiller technique sécurité du recteur de l'Académie de Nice. Voilà, donc j'ai un certain nombre de casquettes à tenir, dont notamment le responsable des équipes mobiles académiques de sécurité, la formation à la gestion de crise, etc. Voilà, sur l'ensemble de l'académie, ce qui représente quand même 1600 établissements globalement. Voilà, donc ça fait une bonne activité quotidienne à se répartir sur les deux départements.
Vous êtes sur deux départements du coup ?
Absolument, oui, je suis au niveau académique.
Ah, voilà. Sur l'Académie de Nice ?
De l'Académie de Nice, complètement.
Donc ça gère quel département ? Le Var ?
Le Var et les Alpes-Maritimes.
D'accord. Très bien, donc si quelques questions, on pourra vous les poser peut-être.
Très volontiers.
D'accord, on y reviendra peut-être, sûrement après. Monsieur Bardet, si vous voulez nous parler des actualités, peut-être.
Voilà. Et puis vous avez vu, hein, je vous avais promis un invité surprise, et bien voilà, vous avez un invité surprise, hein, tel que je l'avais dit. Non, vous remercie encore de vos invitations. À ce qu'on a appelé le Bar des Times, puis souhaiter qu'il y en ait encore quelques autres, hein.
On espère.
Voilà, et puis vous remercie beaucoup de ce que vous faites pour que l'animation de cette radio se fasse le mieux possible. Non, deux sujets rapides d'actualité. Alors évidemment, comme je suis le chef d'établissement, je vais vous parler immédiatement de choses qui concernent l'établissement, évidemment. Le sujet serait, ou le titre serait, que le temps s'accélère pour les élèves en particulier, puisque là nous sommes fin avril, sauf erreur, et qu'il nous reste un mois et une ou deux semaines de cours pour vous les élèves. Et on vous donnera toutes les dates qui vont bien, de conseils de classe, hein, pour les élèves de seconde, de première et de terminale, les dernières dates pour Parcoursup pour les élèves des classes de terminale, les dates aussi pour les BTS, enfin bref, tout l'organigramme pédagogique que j'ai validé il y a quelques jours avec mes adjoints. Hein, donc ça, le temps va aller très vite, je voulais insister, le temps s'accélère, et il ne faut pas se laisser prendre par le temps, donc... Ben, travailler, engranger les bonnes notes, le meilleur possible, soyez exemplaires en classe, enfin ça c'est le discours du proviseur, mais il faut vraiment faire attention, le temps va aller très très vite maintenant, les jeux ne sont pas faits, mais les conseils de classe vont débuter, je vous dis, dans un mois et demi, les jeux sont faits, donc il faut bien y penser et construire votre feuille de compétences, votre portefeuille de compétences et de notes. D'accord ? Toujours, et un deuxième sujet peut-être d'actualité, je vais réunir dans peu de temps le conseil de la vie lycéenne et la maison des lycéens. J'ai pas amené la date là avec moi, mais c'est dans quelques jours. Il y aura des convocations, hein, pour le conseil de la vie lycéenne sur un sujet qui peut faire débat. C'est, et je demande l'avis des élèves et des parents et de tous les personnels, c'est le remplacement éventuel l'année prochaine des manuels scolaires en papier par des manuels scolaires numériques. La région propose aux établissements qui le souhaitent, mais il y aura vote d'un conseil d'administration sur ce sujet, de remplacer dès septembre qui vient, septembre 2019, tous les manuels papier par du manuel qui serait numérisé, sur des cartes SD, dans des tablettes qui fonctionneraient dans des tablettes données à la région pour 3 ans à chaque famille. Voilà le deal, voilà le sujet. et il faut que le conseil d'administration donne ou pas son accord pour cette opération. Donc j'en parle ici, j'en profite d'avoir la parole, et les auditeurs qui nous entendent le savent, on est en train de réfléchir avec les élèves, avec les parents, avec les personnels, sur les intérêts ou non d'ailleurs, ou sur les zones un peu d'ombre, s'il y en a, ou les choses positives concernant l'usage de cette nouvelle technologie. C'est très original parce que, en fait, la tablette dont je vous parle, qui serait une tablette quand même moyenne gamme, si j'ai bien vu les caractéristiques, serait donnée à la famille. C'est-à-dire que la région fait un don à chaque famille ou à l'élève s'il est majeur, de cette tablette. Il fait don de cette tablette, la donne, et il doit la conserver pendant 3 ans. À l'intérieur de cette tablette, il y a les livres numériques qui sont chargés, les manuels scolaires, en accord avec évidemment les professeurs qui choisiront les manuels.
D'accord. J'avais vu un petit peu ça sur par rapport à tous les livres que j'ai passés sur une tablette en format numérique. Et c'est vrai que c'est un bon sujet qui peut faire débat, parce qu'il y a des points positifs comme des points négatifs, on va dire. Pour faire simple, déjà, je pense qu'il y a un problème. Ce qui me vient le plus à la tête par rapport à ça, c'est le poids des sacs qui vont être allégés.
Oui.
Premièrement. Tout à fait. Surtout parce que après, on parle plus dans le lycée, dans tout ce qui est lycée, on a un peu moins de livres quand même qu'au collège, mais ça allégerait quand même les sacs. Après, c'est plus léger. Après, il y a un coût aussi. Il faut voir le coût. Si ça coûte plus cher d'avoir une tablette avec, à la production après. Donc pour tout ce qui est la région et tout ça. Après, on perd, ce qui est dommage, je trouve, personnellement, c'est qu'on perd un petit peu le format papier, en fait. On passe trop sur du... Enfin, tout est numérique maintenant, et on perd un petit peu ce format papier, le toucher, le papier, en fait. C'est là où je viens, l'écriture.
Ouais, l'objet, l'objet. D'ailleurs, je le dis souvent, mais j'ai l'impression que... Mais c'est ainsi, je dis pas que c'est un regret, mais l'objet... si vous regardez, on en trouve des livres à 1 euro le bouquin dans toutes les brocantes et les endroits. On en trouve dans les poubelles. Moi, je suis frappé. Il m'arrive, moi, je ne fais pas les poubelles, je rassure mes auditeurs, mais il m'arrive de voir à côté des bennes à ordures des piles de livres qui sont posées là parce que les gens les jettent. Et pas des livres nécessairement, vous voyez ce que je veux dire, des livres de littérature un peu, je sais pas moi, des grands classiques qui sont jetés. M'est arrivé dans ma, c'est une anecdote, mais il m'est arrivé de m'arrêter une fois devant une benne qui était là, parce qu'il y avait des piles de livres et couvertures en cuir, etc., qui avaient été jetées, déversées là. Donc en fait, c'est une société, il faut le dire, où le livre a été un petit peu abandonné. Et aujourd'hui, on en trouve à 50 centimes l'unité dans les différents magasins, les Cash Express ou je ne sais quel autre type de d'endroit où on donne les objets.
Non, mais je pense qu'avec la technologie actuelle, le livre, le format papier, il a un petit peu voué à disparaître quand même. Parce qu'on va de plus en plus vers du numérique. Mais après, c'est les avancées de la technologie. Il y a du bien comme du mauvais. On passe. Ouais,
c'est ce que je pense.
Ce qu'on peut, on pourrait dire de l'ancien et du nouveau, quoi. En fait, ça peut paraître dépassé, en fait.
Ce qui pourrait être intéressant en tant que professeur, c'est d'avoir sur les tablettes des exercices de type interactif. Genre des QCM, ou genre par exemple faire un schéma avec un petit stylet. Ça, je trouve ça super intéressant parce que on implique l'élève encore plus dans le fait de faire et d'apprendre. Après, moi j'aurais toujours la nostalgie du vieux papier. Mais c'est un peu comme aussi les vieux disques vinyles. Au final, ça revient. Il y aura toujours des aficionados. Donc c'est à tester, c'est à voir.
Les disques vinyles qui reprennent de la valeur.
Ah oui, qui reprennent de la valeur. Ou, je collectionne.
Les bandes dessinées qui, des années 60-70, sont, pour certaines d'entre elles, à 100 euros l'unité. Parce qu'il y a aussi les collectionneurs.
C'est un peu comme les photos aussi. Aujourd'hui, on a des albums numériques. Des fois, ils sont stockés dans le cloud. On peut les perdre. Au final, avoir un vieil album avec des photos, tout d'un coup, ça prend son charme. Ça reviendra. Après, en tant qu'outil pédagogique, faut vivre avec son temps. Donc,
alors, j'ai oublié de dire aussi que... Puis après, on laisse la parole à notre invité mystère, parce qu'il fait des activités quand même mystérieuses. Faut pas qu'on en parle. Non, je voulais aussi dire que Le projet de la région, c'est non seulement de mettre en place ces tablettes pour chaque élève et chaque professeur gratuitement données, etc., avec les livres en mémoire, mais aussi ce serait le déploiement d'antennes Wi-Fi dans les établissements en parallèle, qui permettrait en plus, je reviens à votre idée de cahier d'exercice, hein, qui permettrait en plus que d'avoir les manuels, d'avoir aussi eh bien, tout Internet, les exercices qui vont bien, les ressources numériques, audio, etc., par le déploiement de la Wi-Fi. Donc en fait, le marché de la région est double. Il y a bien les manuels scolaires et cette tablette, mais aussi il y a bien la Wi-Fi associée. Et si les établissements n'adhèrent pas, c'est pour 5 ans. Alors après, pour l'instant, ce sont des polis à 5 ans. Qui peut dire ce qui se passera dans 5 ans? Surtout aujourd'hui, c'est assez complexe d'envisager cela. Mais territorialement, on ne sait pas non plus voilà, si les régions et autres instances auront les mêmes compétences, si les choses ne seront pas bouleversées, je ne sais pas, ou pas. Mais toujours est-il que l'idée, c'est ça, c'est sur 5 ans. Donc il y a un enjeu fort dans la décision que le conseil d'administration va prendre.
Okay. D'accord, mais bien, merci pour nous renseigner là-dessus. Peut-être qu'on peut passer au thème mystère, thème surprise que vous nous avez prévu. Donc, de quoi est-ce que l'on va traiter, tout simplement?
Puis pourquoi Monsieur Rougeau est-il
exactement
aujourd'hui?
Alors, pourquoi est-ce que je suis là aujourd'hui? Ben, déjà, je suis une fois par mois à la cité Thomas Edison de l'Orgue. Puisqu'en fait, dans mes activités à l'échelon académique, j'organise des stages de formation à la gestion de crise, à destination des personnels de direction, des adjoints, des CPE, pour les former, les informer, les acculturer à la notion de gestion de crise. Alors, qu'est-ce qu'une crise? On a les risques majeurs, comme par exemple les inondations, les risques sismiques. Et puis, on a également des crises liées aux attentats, aux intrusions. Voilà, donc c'est pour permettre à toutes les personnes de la communauté éducative d'anticiper, de prévoir et de s'organiser pour gérer au mieux les situations difficiles qui peuvent surgir inopinément en vue d'assurer la sécurité des personnes et des biens au sein des établissements. Voilà, donc une fois par mois, pendant 2 jours, Monsieur Bardel, le proviseur du lycée, a la gentillesse de mettre à la disposition de l'Académie de Nice des salles, et nous travaillons voilà, pendant 48 heures sur les différents thèmes pédagogiques qui ont été rédigés à cet effet. Voilà, donc c'est la raison aujourd'hui pour laquelle je me trouve chez vous. Je serai de nouveau chez vous au mois de mai. Alors, c'est pas un grand scoop, mais ni un secret d'État, je serai là le 13 et le 14 mai, et on clôturera donc l'année de formation gestion de crise au niveau académique, qui existe donc maintenant depuis quelques années. On a formé quelques centaines de personnes, et on espère bien pouvoir continuer à former à l'échelon académique voilà, tout la majeure partie de la communauté éducative.
D'accord. Donc en fait, vous avez un rôle de formateur un petit peu.
Absolument, j'ai dans mes responsabilités une... Alors je ne fais pas tout seul, on est bien d'accord, hein. Il est évident que je suis entouré avec des collaborateurs qui ont eux-mêmes suivi des formations à l'échelon national, qui sont parfaitement rodés à ce genre d'exercice et qui concourent avec moi à la formation des personnels. Voilà, l'idée c'est de pouvoir disposer en permanence d'un vivier d'une quinzaine de formateurs à l'échelon académique. Et on fait des rotations tous les mois, voilà, on change de formateur. Donc là, aujourd'hui, nous sommes 6 hein, sur le stage. Et il y a 20 stagiaires qui viennent, on va dire, à 50% pour les Alpes-Maritimes, lycée et collège. Et pour le reste, du Var. C'est Siri qui se déclenche, là, je suis désolé. C'est
pas... Donc c'est pour... en fait, vous allez former les gens, enfin les gens, les professeurs CPE et tout ça. Par exemple, pour des états de situations de crise, vous avez dit, par exemple, ça pourrait être dans le cas pour éviter ce qui s'est passé, par exemple, c'est dans la ville de Grasse.
Oui, il y avait eu un événement effectivement dramatique
qui s'était déroulé. Un proviseur qui a été blessé par une arme à feu. Enfin, par une...
C'est ça, voilà. Le maître mot, en fait, c'est de bien faire comprendre à la communauté éducative qu'il faut savoir anticiper les situations et les prévoir. Alors après, l'événement c'est l'événement. Il advient sans qu'on en ait pour autant avoir la capacité d'en percevoir le moment, le temps et l'intensité. Mais il y a par exemple dans un établissement des plans d'évacuation, des plans de regroupement des élèves. Si un chef d'établissement décide de faire une évacuation, ça doit se faire selon un modèle précis, avec une méthode parfaitement rodée. C'est-à-dire que les élèves sortent de l'établissement en suivant un cheminement qui a été déterminé. Les professeurs, les gens de la communauté éducative sont astreints à respecter un certain nombre de, comment dire, de consignes, réceptionner les élèves dans un endroit précis, effectuer le comptage des élèves, s'assurer qu'ils sont tous en bonne santé. S'il y a un problème particulier, rapidement informer évidemment les services de secours et en informer le proviseur, etc., etc. Donc voilà, tout ça nécessite de la coordination, nécessite de l'entraînement, des répétitions, des exercices. Vous faites dans votre établissement, je pense, des exercices hein, de gestion de crise, risque majeur, incendie, tous les ans, c'est obligatoire. Hein. La sirène se déclenche, tout le monde descend, et en fait, on essaye, on va dire, de générer des actes réflexes chez les individus pour que ils puissent rapidement se soustraire à la menace. Voilà, c'est l'objet typiquement de la gestion de crise.
D'accord, très bien. Est-ce qu'il y a eu, donc on va dire récemment, donc c'est pour situer un petit peu le cas, enfin les cas, d'autres exemples de crises dans lesquelles d'autres exemples de crises où il fait le responsable a besoin d'agir comme ça?
Oui, bien sûr, il y a au quotidien, vous savez, il y a 1600 établissements sur l'académie. Mm-hmm. Ça représente, à la fois pour le primaire et le secondaire, répartis sur l'ensemble des deux départements, forcément des établissements au sein desquels il se passe tous les jours des petites choses. Alors, l'intensité peut être plus ou moins grande, mais vous pouvez avoir des rassemblements devant un établissement avec des bagarres voilà, qui peuvent générer des blessures. Donc il faut s'assurer que derrière les services de secours soient prévenus rapidement, que voilà, les services de police puissent intervenir dans de bonnes conditions. Il y a parfois des élèves qui sont malades ou qui ont des problèmes de santé au sein d'un établissement. Donc il faut pouvoir également intervenir rapidement et s'assurer qu'ils sont bien pris en compte hein, dans le cadre voilà, de ces choses-là. Vous avez des classes qui se déplacent en dehors de l'établissement, qui peuvent aller à l'étranger. Donc ça aussi, ça fait partie de la gestion de la crise qu'il faut suivre en permanence. Alors là, pour une classe, vous me direz qu'à l'étranger, il faut déjà savoir quelle est la classe, le nombre et le nom des élèves, les moyens de transport utilisés, les dates de départ, les dates de retour, afin qu'on puisse renseigner en temps réel les autorités de la préfecture et puis les parents, qui puissent savoir exactement où se trouvent leurs enfants dans le déplacement. Parce qu'il peut y avoir, par exemple, un risque majeur dans un pays étranger, une inondation ou des vents très très violents qui empêchent par exemple les avions de décoller. Bon, légitimement, les parents sont inquiets de ne pas retrouver leur enfant à la date et heure qui était fixée. Donc on doit être en mesure en permanence de les renseigner et de leur apporter en tout cas le maximum de réponses aux questions qu'ils se posent.
D'accord. Une petite question personnelle. On considère une situation comme étant de crise, qu'est-ce qui définit une situation comme étant de crise? C'est-à-dire que une bagarre est considérée comme une situation de crise?
Alors, qu'est-ce qu'une situation de crise? Ben, c'est une situation qui sort un petit peu de l'ordinaire. Voilà, c'est ce qui perturbe la vie. On est dans un établissement, donc on va raisonner établissement. Une crise, c'est une situation qui perturbe momentanément ou de manière durable la vie normale de l'établissement. Si vous avez un incendie, ça va perturber l'établissement parce qu'il va falloir évacuer l'établissement. Il va falloir traiter la cause de l'incendie, s'assurer ensuite que l'établissement soit en mesure d'accueillir de nouveau les élèves dans les conditions de sécurité requises. une bagarre. Qu'est-ce qu'une bagarre ? Est-ce qu'elle se situe dans l'établissement ? Est-ce qu'elle se situe aux abords ? Est-ce que c'est juste deux personnes qui s'engrènent et qui, à un moment, voilà, vont se causer un peu d'un peu trop près ? Ou est-ce que ça va être un règlement de compte entre bandes rivales, comme parfois ça peut arriver, hein, dans certains établissements, en tout cas aux abords ? Donc tout dépend de l'intensité, tout dépend de la gravité, du nombre de personnes, et puis voilà. Mais tout se gère.
Ok. J'aurais une question. En fait, l'évolution de la gestion des crises, ça date depuis combien de temps au niveau académique ? Est-ce qu'il y a une grosse évolution ? Et tout ça pour en revenir, quels sont les modèles, par exemple, pour vous ? Est-ce qu'on va, se diriger vers le modèle américain ? Ça, c'est un peu polémique ma question, mais est-ce qu'on va arriver à terme à avoir des portiques, des détections anti-armes dans les écoles, ou c'est pas encore du tout envisager ?
Alors, ça c'est une excellente question, qui d'ailleurs comporte plusieurs volets. Bon, dans un premier temps, la politique de gestion de crise, c'est quelque chose... Déjà, les équipes mobiles académiques de sécurité ont été créées en 2009. Donc on est sur une dizaine d'années d'existence. Elles ont été créées en 2009 à l'échelon national, elles se sont mises en place, elles ont trouvé leur place au sein des académies et répondent aujourd'hui en matière de prévention, en matière d'accompagnement. Je pense très objectivement, elles accompagnent véritablement les établissements et répondent vraiment aux besoins de la communauté éducative. En tout cas, on s'efforce au quotidien d'apporter cette réponse. S'agissant des gestions de crise, l'orgue, par exemple, accueille depuis maintenant 2 ans et demi, 3 ans, les formations académiques à la gestion de crise. Il existe des formations nationales et il existe des formations académiques. Alors, la formation académique, c'est faire ce que l'on doit faire face à une situation donnée en fonction de ce que la réglementation et la loi française autorisent. On est sur le territoire français, donc voilà, on fonctionne selon les lois et règlements en France. S'agissant des portiques de sécurité, il existe à l'heure actuelle, à l'échelon régional, deux établissements qui testent effectivement ce type d'option avec des portiques pour voir quelle est la solution, quels sont les avantages et les inconvénients, quelles sont les limites du système, parce que vous comprenez bien qu'installer un portique c'est une chose, mais après il y a un flux entrant de personnes qu'il va falloir gérer. Selon la nature de l'établissement, sa localisation géographique, c'est pas toujours évident. Et donc en fait, tout ça est une question qui dépasse largement le cadre d'un établissement. C'est une politique à l'échelon régional. Voilà. Vous dire qu'on va se diriger vers quelque chose d'équivalent et de semblable aux États-Unis, je suis incapable de vous répondre. J'espère en tout cas
qu'on
pourra rester tel que l'on est actuellement en France, dans une gestion normale des situations au quotidien, et qu'on n'ait pas autant d'armes qui soient en circulation.
Le contexte n'est pas le même.
Le contexte est totalement différent.
Est-ce que vous avez des exemples ? Parce que sécuriser une maternelle et sécuriser un lycée...
c'est différent.
Donc c'est créer le réflexe chez les individus, que ce soit les professeurs, les responsables ou les enfants. Par exemple, j'ai un modèle en tête, c'est le modèle japonais. Mm-hmm. Parce que le modèle extrême américain avec les armes, ça c'est autre chose. Par contre, le modèle japonais, eux, ils ont été quand même très concernés par les séismes. Mm-hmm. Et je sais que dès qu'ils ont 3 ans, les élèves là-bas dans les primaires, ils savent qu'il faut se mettre sous la table, se mettre les mains autour du cou. Qu'en est-il alors, par exemple, sur notre académie ? Parce que, par exemple, je sais que Nice, ils sont sur un fort risque sismique. Un peu moins nous dans le Var. Nous, on a de l'eau, quoi.
Ouais. Alors, c'est une question très pertinente. C'est vrai que le modèle qui est développé selon les pays tient essentiellement à la nature même du danger au quotidien. Bon, le Japon, en tout cas les archipels qui composent les grandes villes japonaises, sont sur une faille sismique et dès le départ, alors non seulement ils apprennent aux gens à se protéger, à anticiper, à avoir les gestes qui leur permettront de pouvoir limiter au maximum les accidents, les blessures, mais ils ont également les constructions qui sont prévues justement pour réagir du mieux possible en fonction des règles, des normes sismiques, antisismiques.
Pour autant, alors effectivement, il y avait récemment, je crois que c'est sur la chaîne France 3, un excellent reportage, je crois que c'était lundi dernier, de Jani, voilà, qui traitait justement du risque sismique et sur la région provençale Côte d'Azur, et notamment sur la région niçoise, mais également italienne, puisqu'il y avait eu le drame d'Amatrice en 2016, qui avait vu donc un village complètement rasé, voilà, suite à un séisme de très très forte magnitude. Alors, dans les plans de sauvegarde au niveau des départements, il existe un certain nombre d'exercices qui sont, joués tous les ans, au niveau des services de secours pour permettre d'assurer au maximum la sécurité des populations. Et puis il y a dans les établissements ce qu'on appelle un PPMS, un plan particulier de mise en sûreté, qui porte le nom de risque majeur et qui intéresse donc les inondations, les règles sismiques, avec donc des fiches réflexes qui sont inclus dans ces plans, détenus au niveau des établissements par les chefs d'établissement. Et lors des exercices, on peut très bien jouer un exercice risque majeur, risque sismique, où on va apprendre aux élèves, alors en fonction de l'âge, évidemment on adoptera des comportements différents s'agissant d'une matérielle ou d'un lycée, évidemment on ne va pas s'adresser de la même façon aux élèves, pour leur faire obtenir et acquérir des actes réflexes. Voilà. Alors, tout ça doit se faire de manière très pédagogique, dans le calme, pour que les gens puissent développer des réflexes et adoptent, en les circonstances, les bons comportements. Ça existe, c'est prévu, c'est rédigé, et tous les ans, il y a des exercices qui sont faits. C'est une obligation réglementaire qui est faite pour les établissements, hein, de jouer des exercices de mise en sécurité des élèves de la communauté éducative. Tout le monde y concourt, tout cela fait partie d'un plan particulier. Ça fait l'objet d'un débriefing et ça fait l'objet notamment d'un compte-rendu écrit posté sur un outil numérique. Là aussi, on a évolué. Hein, on est passé de la version papier scannée à un outil numérique. Et j'ai en charge, notamment l'échelon académique, de m'assurer que les 1600 établissements, donc c'est pas rien, aient bien effectué la rédaction de tous ces plans conformément à ce que la réglementation prévoit, ont bien joué les exercices. Et puis je vais vous livrer un scoop, hein, puisque je suis l'invité mystère. Je dois rendre compte au ministère, comme tous mes homologues au niveau des rectorats, de la situation en pourcentage de ce qui a été fait au niveau académique, s'agissant des plans particuliers de mise en sûreté, des exercices, etc. Voilà, on doit faire ça demain. Je rends compte à Paris demain de... Voilà.
Un petit coup de pression.
Voilà, j'ai ce qu'il faut pour occuper mes journées, je vous rassure, et je vous le confirme.
J'aurais déjà une question. C'est donc on a parlé du fait que donc le Japon a des aménagements qui sont axés antisismiques. En France, et du coup plus particulièrement dans l'Académie de Nice, est-ce qu'on a des aménagements spécifiques anti-état de crise, si on peut vous dire?
Anti-état de crise ou antisismique?
Enfin, bah... tout ce qui est cause naturelle, hein. Enfin, oui. Ça peut être séisme, incendie ou inondation.
Accident de matière dangereuse, nuages toxiques, etc. Oui, alors au niveau des préfectures de chaque département, il existe des plans particuliers de sauvegarde des populations. Ce sont des plans qui sont rédigés par des experts. Pompiers pour les incendies, etc. Voilà. Mais il peut y avoir également les services vétérinaires, hein. Il peut y avoir des épidémies avec des animaux malades, il peut y avoir une pollution des eaux, il peut y avoir plein de choses en fait. Donc le rôle des préfectures, c'est justement d'anticiper sur ce type de phénomène, de rédiger des plans, de les soumettre à l'appréciation du préfet, et ensuite dans chaque collectivité, dans chaque grand ministère, s'assurer que tout le monde soit parfaitement au courant et en mesure de mettre en œuvre les directives qui sont données. Voilà, on est bien organisé en France, les plans de secours fonctionnent bien, très objectivement, on n'a pas à rougir par rapport à l'extérieur.
Très bien, merci.
Par rapport à notre dépendance, en fait, à nos smartphones, à nos réseaux, moi je suis un prof de SN, système numérique, donc je suis au fait... Que se passe-t-il là? On a un séisme, tous les réseaux électriques sont coupés, C'est un cas pratique, hein. Plus de réseau électrique, plus de bornes, plus de communication par téléphone portable. Comment ça se passe ?
Alors ça, c'est une bonne question, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on est dans quasiment le tout numérique. Quasiment tout le monde est équipé de téléphone portable, l'Internet, etc. Et dès lors qu'il y a une panne de courant ou une rupture de réseau, tout le monde est perdu. Voilà. Donc, alors, si c'est juste un peu de retard pour rejoindre un ami ou sa petite amie, bon, c'est pas dramatique, on arrivera toujours à patienter. Mais quand on est confronté à un risque majeur ou avec une sauvegarde des populations, là, il faut adopter d'autres modes d'action. Les services de secours, police, gendarmerie, pompiers, etc., douane maritime, affaires maritimes, etc., sont équipés de réseaux radio. D'accord ? Alors, soit avec des relais physique, soit en direct. Donc ça, c'est déjà une première possibilité. Ensuite, le réseau interministériel dispose d'un système qui s'appelle Rimbaud, qui est un système à part, un filaire, donc à l'ancienne, voilà, qui permet de converser dans des conditions qui, en cas de difficulté voilà, majeure, peuvent subvenir. Puis ensuite, vous avez des moyens de communication classiques. Vous avez la voix, vous avez la couleur des drapeaux, vous avez le vélo, on se déplace et on travaille un peu à l'ancienne. On a perdu cette habitude. Mais quand on ne peut pas faire autrement, il faut trouver des solutions. Voilà.
Oui, c'est vrai qu'on a. Bon, je pensais à la CB, au radio amateur.
Ouais.
Ça me fait penser à l'ouvrage de Ravage de Barjavel. En fait, on pense que toute la technologie, l'électricité, c'est quelque chose d'acquis. Mmh. Et justement, en gestion de crise, il y a tous nos repères, nos modèles qui sont balayés en quelques secondes.
Absolument.
Donc, ouais, gérer 2200 personnes. Gérer aussi les parents qui doivent être inquiets, etc. Là, il faut mettre quand même un processus, une organisation.
Après, vous avez le système du talkie-walkie classique, hein, en direct. Hein, voilà, les ondes courtes qui permettent de pouvoir converser. Mais là encore, ça nécessite une discipline en termes d'utilisation des réseaux de communication. Aujourd'hui, on parle beaucoup. On a le téléphone, on parle. Chacun raconte sa vie et bien plus. On s'envoie des photos, etc. Quand vous êtes dans ce type de situation avec des moyens très basiques de com, et ben là, il faut être très basique dans la transmission de l'information. Je suis à tel endroit, je vois telle situation, je demande telle action et je fais telle action. Point. Donc ça doit durer 10 secondes. C'est-à-dire que quand vous transmettez cette information, les gens qui la reçoivent doivent avoir l'intégralité de ce qu'ils doivent connaître pour réagir dans les bonnes conditions. Et puis, bon, après, quand même des équipes qui travaillent pour le rétablissement rapide des moyens de com, électricité, etc., etc., puisque, bon, tout dépend aujourd'hui de ça. Regardez les hôpitaux, les maisons de retraite, avec les gens qui sont en situation précaire sur le plan de santé, ils ont besoin d'avoir des assistants de respiration, etc., etc. Enfin, voilà, tout ça, voilà. Mais bon, c'est bien équipé, il y a déjà des choses qui sont prévues, vous avez des groupes électrogènes. Donc tout ça fait partie aussi des plans de protection des populations que chaque département, chaque préfecture met en œuvre.
Oui, bah sur le Moyen Var, nous avons eu donc l'épisode de 2010 des inondations sur la Dracénie.
Absolument.
Est-ce que vous l'avez vécu, Florian, Kevin ? Non, les coupures d'électricité, les groupes électrogènes disposés dans chaque quartier de la ville. Non, vous l'avez pas vécu ça.
Bah moi, je suis
trop jeune.
Je suis situé vers Paron, donc c'est un peu plus en hauteur, c'est plus en montagne, donc on n'était pas vraiment touché.
Ouais.
C'est un peu l'exemple.
Oui, c'est ça. En fait, les groupes sont prédisposés et puis vous avez un certain nombre d'administrations qui sont prioritaires pour pouvoir disposer du courant, hein, notamment les hôpitaux. Évidemment, les gens qui sont en train d'être opérés, d'un seul coup, vous n'avez plus d'électricité, c'est embêtant, quoi. Hein. Donc il faut que très rapidement ça soit géré et normalement les groupes électrogènes se déclenchent instantanément, hein, se mettent en secours. Voilà, c'est le terme.
On avait un peu, tout à l'heure vous en parliez là, pour revenir à l'établissement, on a fait, je ne sais pas si vous étiez déjà là, les élèves présents, on a fait ici deux fois, mais une particulièrement dont je me souviens bien, un déclenchement du plan particulier de mise en sûreté pour plus de 2000 personnes, séisme. On avait imaginé un séisme, donc plus d'électricité, plus rien, on avait joué le jeu, c'est-à-dire on avait fait une cellule de crise itinérante et on avait fait un exercice dont je me souviendrai très bien, mais en réalité, ça avait bien fonctionné dans l'efficacité des messages. Enfin, c'était. Mais c'est une aventure. Hein. d'imaginer qu'il n'y a, plus rien, il n'y a plus de communication possible, si ce n'est la communication ancienne. Et,
que de l'humain.
Qu'on est dans les décombres et qu'il n'y a plus de téléphone. Je ne suis pas là pour faire de la publicité de la cité scolaire, mais quand même, un petit peu. Les plans particuliers de mise en sûreté, on a commencé à les faire ici très très tôt, hein, dès 2012-2013, on a commencé à en faire, donc on avait un petit peu d'avance, parce qu'on était bien convaincu qu'il fallait avancer sur ce dossier.
Oui, il vaut mieux être prêt avant l'heure.
Faut anticiper.
C'est ça.
Voilà. Un homme averti en vaut deux.
Gestion de crise, on dit souvent dans les établissements scolaires que gérer la crise, c'est s'y préparer. Bon. Et aussi savoir anticiper. Et savoir imaginer, voilà, savoir faire, parce qu'il y a bien des réflexes, etc., mais il y aura aussi à savoir réagir, quoi.
S'adapter.
À ce moment-là, s'adapter, se préparer, savoir improviser, oui, c'est important.
Très bien, bien, merci pour toutes ces informations. Merci à monsieur Rougeau d'avoir été présent aujourd'hui.
C'était avec plaisir. Moi, je souhaite une bonne continuation, une longue vie à Web Radio Antithèse.
Voilà. Merci.
Bonne continuation
merci
à vous beaucoup. Et puis au plaisir.
Merci
et continuez, c'est très très bien.
Oui,
donc, on va merci. Se quitter là-dessus. C'était sympa, on a pas mal appris. Et puis voilà. On se retrouve. Donc, peut-être Florence, t'as un petit mot avant la fin
Non.
Non, ben voilà,
c'était notre fin. Notre texon.
Et ben, on se retrouve pour merci. Le Bar des Times numéro 16.
Très prochainement.
Mais voilà, c'était Pavi. Au revoir.
Merci,
au revoir.
Merci monsieur Rougeau. Merci, au revoir.
Les briques.
C'est dans la boîte ?